France Culture.
Les nuits de France Culture.
De vous, les damnés de la terre, les despotes épouvantés, sentant sous leurs pas un cratère, au passé se sont acculés.
La vie militante oblige-t-elle toujours à choisir entre les convictions et les responsabilités ? À cette question très ancienne et sans doute un peu schématique, Daniel Mayer répond par la négative dans l'émission que vous allez entendre dans un instant. Homme de gauche, résistant, ministre sous la 4e République, puis président du Conseil constitutionnel, Daniel Mayer exerça les plus hautes responsabilités sans jamais cesser de se battre pour ses idées tout au long de sa vie. En septembre 1990, il se confie au micro d'Alain Astaud dans le dernier volet d'une série de chemins de la connaissance autour de la mémoire ouvrière. Voici donc Daniel Mayer dans Fragments d'une mémoire ouvrière, cinquième et dernier volet, première diffusion de cette émission sur France Culture le 28 septembre 1990.
Il y a belle lurette que certains ont fait le deuil de leurs idéaux révolutionnaires et adressé leurs adieux au prolétariat. Certains, mais pas tous. Ainsi, ces historiens qui, fidèles à la mémoire de Jean Métron, s'obstinent à scruter l'histoire prolétarienne pour le dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français. Cinquième et dernier fragment de cette mémoire extrait de ce dictionnaire, celui de Daniel Mayer. Né le 29 avril 1909, Daniel Mayer a vécu à Paris. L'adolescent Daniel Mayer était avide de connaissances et Victor Hugo a été un des auteurs de prédilection de l'enfant.
Alors en dehors de Victor Hugo, à partir de l'âge de 17 ans, 18 ans, je lis beaucoup de brochures. Et celle qui m'a le plus frappé, c'est une brochure de Wells qui s'appelle « Cette misère des souliers ». C'est l'histoire d'un petit garçon qui habite dans une espèce de cave dont la seule fenêtre est un soupirail qui donne à la hauteur du trottoir. Et il voit passer des gens. Et il étudie les gens, enfin il juge plutôt les gens à travers leurs souliers. Et c'est cette misère des souliers qui lui donne une idée de ce qu'est la vie.
Alors vous avez commencé à travailler très jeune.
14 ans.
14 ans. Quel était le monde du travail à ce moment-là ?
Je ne sais pas, moi j'étais assez content de devenir adulte par le travail. Sauf qu'il est bien évident que j'étais aimablement exploité par tous ceux qui m'entouraient. En fait, je travaillais dans un bureau et les autres employés m'envoyaient chercher les chaussures qu'ils avaient laissées chez le cordonnier ou chercher des cigarettes au bureau de tabac voisin. Ça, c'est incontestable. Mais j'ai encore maintenant une fierté. Le premier mois, je devais gagner 225 francs. De l'époque. Et dès le premier mois, c'est-à-dire la deuxième paye, on a dit à mon père que j'allais être mis à 250. Et je suis encore fier aujourd'hui de ce qui était une espèce d'avancement spontané et immédiat.
Il y a un événement qui va vous déterminer à vous engager, c'est l'exécution des anarchistes Sacco et Vanzetti. Alors votre premier engagement, votre première adhésion, elle se fait à la Ligue des droits de l'homme. Pourquoi ?
C'est pas tout à fait l'exécution. C'est quelques mois avant la campagne contre l'exécution. En 1927, cela faisait 7 ans que Sacco et Vanzetti avaient été condamnés et qu'à la suite de recours, refusés un autre recours, etc., ils arrivaient au moment où ils devaient être exécutés. Alors il y a eu une très grande campagne dans le monde entier en faveur de ces hommes que l'on pensait innocents et qu'encore aujourd'hui, je suis convaincu qu'ils l'étaient. Et c'est cette campagne qui m'a ouvert les yeux. Je me souviens d'un meeting au Trocadéro avec Léon Jouot, avec Henri Torres, avocat prestigieux, qui s'était fait siffler par les communistes parce qu'il avait une querelle avec eux, enfin, quelque chose qui était encore brouhaha, qui était encore tohu-bohu, mais qui marquait la nécessité de se battre pour la justice.
Alors peu de temps après, vous adhérez cette fois-ci à la CFEO, la vieille maison socialiste. Et je crois savoir que c'est en fait après un discours de Léon Blum.
Oui, j'ai adhéré en septembre 27, donc 18 ans, à la Ligue des droits de l'homme. Et Léon Blum est venu trois mois après faire une conférence à cette même section de la Ligue des droits de l'homme. Et je pensais qu'il convenait de compléter ce qui, adhésion à la Ligue des droits de l'homme, n'était qu'une affirmation, par quelque chose qui soit plus engagé, plus actif, enfin qui correspond probablement plus à un tempérament de 18 ans qu'à un simple travail d'étude.
Léon Blum est quelqu'un qui a eu une certaine influence sur vous.
Ah oui, énorme.
Il est le seul ?
Comment ?
Est-il le seul ?
Ma femme.
Votre femme que vous avez connue à la SFIO.
Que j'ai connue à la SFIO, elle est venue me demander à qui il fallait s'adresser pour adhérer, car j'étais à ce moment-là secrétaire de la 20e arrondissement des jeunesses socialistes.
Lorsqu'on est militant, est-ce que c'est important de pouvoir, comme cela, partager une union d'esprit et de cœur ?
Je crois qu'il faudrait poser la question à l'envers. Est-ce que vous ne croyez pas qu'il est intéressant pour un couple de pouvoir partager ?
Et votre réponse ?
Naturellement. Je n'envisage pas de couple possible sans une action commune, et en tout cas sans une pensée commune.
Alors au sein de la SFIO, vous militez dans un courant qui s'appelle la bataille socialiste.
Oh ben, c'était un courant qui se situait à gauche et qui pensait que la rupture, la scission d'avec les communistes ne pouvait pas être définitive et qu'il convenait de tout faire pour préserver le retour à l'unité. C'était essentiellement cela. Et puis un certain nombre d'affirmations de principes que l'on a retrouvées dans le Front populaire.
En 1933, vous entrez comme journaliste au quotidien.
Au quotidien socialiste, Populaire.
Le Populaire. Et là, vous vous occupez notamment de la rubrique sociale, des questions syndicales, des questions du monde du travail. Quelle était la situation à ce moment-là dans le monde du travail ?
C'était une période de déflation, c'est-à-dire de diminution du pouvoir d'achat. C'était une période de très grand mécontentement. Et c'était aussi une période où l'action était très peu suivie, très peu importante, d'abord à cause de la scission syndicale, CGT d'un côté, CGTU, Confédération Générale du Travail Unitaire, de l'autre, et puis ensuite parce que les gouvernements Tardieu, Laval Tardieu, souvent par décret-loi, entraînaient une impossibilité de grands mouvements ouvriers.
Et cette activité de journaliste, est-ce qu'elle vous amène à découvrir un monde du travail que vous ignoriez ?
Oh ben elle m'amène à découvrir surtout essentiellement un monde syndicaliste, un monde militant ouvrier. Pas seulement les gens qui habitaient, nous habitions le 20e, qui habitaient dans la maison autour de moi, autour de la place Gambetta, etc. Qui est d'ailleurs relativement petit bourgeois par rapport au reste du 20e, Charonne ou Belleville. Mais la fréquentation de la Bourse du Travail, c'est la fréquentation des militants syndicalistes, des militants ouvriers, et notamment ceux qui arrivent des usines en fin de journée pour dire « voilà ce qui se passe dans mon entreprise ».
Lorsque vous êtes démobilisé, vous êtes amené à rencontrer Léon Blum. Et je crois savoir que c'est Léon Blum qui vous incite en fait à rester en France alors que vous souhaitiez plutôt gagner Londres.
Oui, nous sommes allés voir Léon Blum qui était à Colomiers à côté de Toulouse dans la propriété du gendre de Eugène Montel. Eugène Montel était le militant de l'Aude qui avait été désigné pour être candidat à une élection partielle dont le succès pour les socialistes était certain et qui avait laissé son siège à Léon Blum, battu l'année d'avant, en 1928, dans le 20e arrondissement par Jacques Duclos. Et Léon Blum était à Colomiers. Nous lui avons dit que nous voulions, ma femme et moi, nous lui avons dit que nous voulions aller en Angleterre. Et il nous a à peu près tenu ce langage. À ma connaissance, vous n'avez pas de vertu guerrière particulière. Vous serez deux bouches de plus à nourrir. Et vous ne serez pas d'une grande utilité. Tandis qu'ici, je ne sais pas sous quelle forme, on verra quelle forme cela prendra. Il doit y avoir un combat à mener, un combat qui sera peut-être public, plus sérieusement clandestin.
C'était en quelle année ?
Eh bien, en juillet 40.
Juillet 40. Et comment vous est-il apparu à ce moment-là ?
Qui ?
Léon Blum.
Parfaitement serein, tout à fait conscient du danger qu'il courait, mais nous déclarant qu'il avait eu la possibilité de rejoindre Londres et qu'il n'avait pas voulu le rejoindre pour pouvoir répondre ici même. Je me rappelle, sa formule était à peu près publiquement ou à la barre d'un tribunal. Autrement dit, il envisageait déjà ce qui allait être le procès d'Orient.
Alors vous, ici en France occupée, vous allez travailler à la reconstitution d'un parti socialiste rénové, notamment débarrassé un peu de ces élus qui avaient voté les pleins pouvoirs à Pétain.
Oui.
Vous pouvez un peu nous parler de cette période aussi agitée ?
Vous venez d'en parler vous-même, en réalité. Il s'agissait d'aller trouver des gens dont on pensait qu'ils pourraient être des militants clandestins d'un parti clandestin. Alors, contrairement à ceux qui ont commencé à créer des réseaux ou des groupes, c'est-à-dire d'aller voir des gens qui, en dehors des amis personnels, n'avaient aucune espèce d'impact, n'avaient pas de racines dans le pays, j'avais personnellement deux possibilités. D'une part, les députés socialistes qui avaient voté le 10 juillet 40 contre Pétain, et il y en avait 39. C'est très peu par rapport au nombre de députés et de sénateurs qui étaient socialistes. Mais c'est énorme, puisque ça représente la moitié des 80 opposants. Alors qu'il est bien évident que les parlementaires socialistes étaient bien moins que la moitié de l'ensemble du Parlement. Donc il y avait ces hommes-là que l'on pouvait aller voir et dont le vote public était une garantie. Et puis il y avait aussi ceux qui, en octobre 38, s'étaient déclarés anti-munichois. Et pour moi, Munich a été beaucoup plus grave que l'armistice, beaucoup plus grave que la défaite. Parce que Munich contenait déjà en soi et la guerre et la défaite prévisible.
C'est vous qui lancez l'idée du Conseil national de la résistance. Là encore, on retrouve ce souci
non,
de
ça l'unité. Ça n'est pas moi. Je n'en ai été que le haut-parleur. Léon Blum pensait qu'il convenait d'unifier effectivement la résistance, de la réunir. On retrouve toujours réunir, unifier. Et pour cela, il proposait la création d'un, ouvrez les guillemets, comité exécutif de la résistance française, fermez les guillemets, c'est ce qui est devenu le Conseil national de la résistance. Alors pour cela, relation entre Léon Blum et le parti clandestin par le truchement de René Blum, sa bru, qui était resté à Rion pendant qu'il était emprisonné à Bourassol, à quelques kilomètres de Rion. Et puis moi, représentant le parti clandestin. Alors, on envoie des textes à Londres et je m'en vais en mission, aller-retour naturellement, en avril-mai 43. Et le Conseil national est né à ce moment-là et De Gaulle en a accepté l'idée, appuyée qu'elle était par Jean Moulin, qui avait une vision très, très nette et très précise, et je crois très objective, de la réalité des forces clandestines en France.
Oui, ce qu'il faut préciser, c'est que vous-même, mais aussi le Parti socialiste clandestin, vous êtes prêt à vous mettre en quelque sorte derrière De Gaulle.
Ah, on n'est pas prêt à se mettre. On estime que De Gaulle est le symbole de la résistance. On estime que De Gaulle est celui qui a rendu à une grande partie des Français son espérance et sa volonté de combat. Et en tout cas, De Gaulle présente une qualité essentielle pour ceux qui, dès le mois de juillet 40, pensaient qu'il convenait de poursuivre la lutte. Il est celui qui poursuit la lutte. Il est celui qui est en relation avec la Grande-Bretagne, pour laquelle nous avons une admiration sans faille.
Après la guerre, à 6 reprises, vous avez été ministre.
Sept.
Sept
reprises. C'est une erreur du dictionnaire de Métron.
Donc, rectification, vous avez été 7 fois ministre, et notamment ministre du Travail et ministre de la Sécurité sociale. À ce moment-là, étiez-vous encore un militant du mouvement ouvrier ?
Mais toujours. Et je veux même choquer quelques-uns de mes collègues. Je suis membre du Conseil constitutionnel et je paye toujours régulièrement mes cotisations.
Au Parti socialiste ?
Naturellement. Oui, pas au Conseil constitutionnel.
Et être ministre, comment peut-on être encore militant ?
Mais en appliquant comme ministre les desiderata, les aspirations, et en donnant le maximum de satisfaction aux revendications de la classe ouvrière, quand elles sont légitimes. Ben, je me suis bagarré pour défendre la sécurité sociale contre la droite qui voulait notamment supprimer ce qu'on appelle le petit risque, c'est-à-dire la maladie d'enfant. Il ne fallait pas rembourser, bon, aucun intérêt, quoi, des enfants. Alors que ce sont justement les familles ouvrières qui ont des enfants malades et qui ne peuvent pas les soigner s'ils ne sont pas remboursés. Enfin, ce qu'on appelait naguère, c'est sorti du vocabulaire, mais je pense du vocabulaire seulement, pas de la réalité sociale. Ce qu'on appelait naguère, la lutte des classes, existe à tous les niveaux. Et un socialiste dans un gouvernement de coalition doit représenter les intérêts, les aspirations, les espérances du mouvement ouvrier.
Vous avez donc adhéré à l'âge de 18 ans,
18 ans
au Parti socialiste, enfin à la SFIO de l'époque. Vous l'avez quitté une fois.
C'était... Ah non, j'en ai d'abord été exclu 2 ou 3 fois. Parce que j'ai été indiscipliné en ayant voté contre la CED, parce que j'ai été indiscipliné parce que je n'acceptais pas la manière dont mon successeur au secrétariat du parti menait ensuite la guerre d'Algérie.
Alors justement, c'est de lui dont je voulais que l'on parle, à savoir Guy Mollet. Vous étiez en très profond désaccord avec Guy Mollet.
En complet, depuis le début.
À un moment donné, dans votre longue carrière politique, vous avez renoncé à votre charge de député parce que vous êtes devenu président de la Ligue des droits de l'homme.
Vous venez de commettre 2 erreurs. La première, je n'ai pas de carrière. J'ai du militantisme qui m'a amené à avoir des fonctions différentes au long de ma vie. Mais ça n'est pas une carrière au sens un peu commercial qu'ont certaines personnes. Deuxièmement, je n'ai pas démissionné du Parlement parce que j'étais président de la Ligue des droits de l'homme. J'ai démissionné du Parlement parce que, entre les votes que la SFIO m'imposait, si je voulais être discipliné, et effectivement, je préférais l'être, et les positions, non pas seulement de la Ligue des droits de l'homme, mais qu'aurait dû avoir la SFIO, étaient en contradiction. Alors, pour ne pas avoir de drame de conscience permanent, il y en avait à peu près chaque semaine, j'ai préféré abandonner l'Assemblée nationale parce que j'entendais bien être militant sans être parlementaire, mais je ne me voyais pas parlementaire sans être membre du parti.
Ce n'était pas pour vous parce que le combat humanitaire devenait peut-être plus important que le combat politique ?
Pas du tout. J'ai toujours mené les deux d'une manière permanente. Non ?
Debout, les forçats de misère, unissons-nous latins, slaves germains.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 28 septembre 1990.